France Inter.
The average Dane are receiving one letter a month in average. It's not a lot. On the contrary, the Danes love to shop online. The global e-commerce are growing significantly, and we are moving with it. We are just facing this evolution, a natural evolution, I would say, of a digitized society earlier than maybe some other countries.
On vient d'entendre Kim Pedersen, c'est le patron de PostNord, c'est la poste danoise. Il justifie un symbole très concret. Le groupe vient d'arrêter cette semaine la distribution du courrier pour se concentrer sur les colis. Une décision brutale, mais qui raconte une bascule. En 25 ans, le volume de lettres a chuté sur place d'environ 90%. Les Danois ne reçoivent plus qu'une lettre par mois. C'est donc maintenant un prestataire privé qui assurera ce service. Alors évidemment, la question qui arrive tout de suite, est-ce que la Poste française va faire pareil ? On n'en est pas là, mais on est sur la même pente. Les chiffres sont parlants. 5,6 milliards de lettres distribuées en 2025, 18 milliards en 2018 et ce sera 3 milliards à l'horizon 2030. Autrement dit, la baisse du courrier est inexorable et le colis devient le cœur du réacteur. Sauf qu'en France, il y a un verrou politique. Ça s'appelle le service universel. La Poste a été reconduite pour 10 ans et doit donc continuer à distribuer, même si ça coûte cher, avec une compensation publique et une conséquence très concrète pour nous. Le prix du timbre qui monte, la lettre verte passe en ce début d'année à 1,52€. En parallèle, la Poste se réinvente. Services de proximité, logistique, banque. Et c'est exactement ce mélange qui crée aussi une nouvelle donne et qui développe de nouveaux risques. Si on se demande si le facteur passera encore tous les jours, les cyberattaquants, eux, passent déjà, et souvent plusieurs fois par jour. La Poste vient d'être touchée à deux reprises par des cyberattaques d'ampleur. Le courrier disparaît peut-être doucement, mais la dépendance au numérique, elle, arrive très vite.
On n'arrête pas l'écho. Emmanuel Dutheil sur France Inter.
Bienvenue dans votre Mag Echo et au nom véritablement là de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année 2026. Je vais commencer par vous présenter la team de choc de ce week-end. Lisiane Larbani m'a aidé à préparer cette émission. Ryan Saïbi était notre chasseur de son. À la réalisation, Étienne Bertin. Le mixage était fait par Maxime Goudard. Et à la console, là, juste derrière la vitre avec nous, Tiane Ravu. Alors, au sommaire, pour ce début d'année, la consommation de vin s'effrite, les vins sans alcool font une percée, le changement climatique menace les vignobles. Dans ce contexte, le caviste Nicolas change de nom pour se réinventer. Il va falloir maintenant dire Maison Nicolas. Notre invitée ce matin sera Cathy Collard-Gégère, c'est la directrice générale de Maison Nicolas. Alors tiens, justement, je vous parlais du changement climatique. Alors tout cela, bien évidemment, change la donne et surtout, on se pose une question. Comment les vignerons s'adaptent pour y faire face et pour continuer à produire en France? On ira avec notre reporter Sophia Berada chez un producteur de cognac qui fait évoluer sa façon de produire. Mais d'ici là, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Allez, on va commencer l'année avec deux de nos auditeurs qui vous ont écrit bulletin de paix à la main.
Oui, Thomas est prof, il a avancé des sous pour une sortie scolaire et veut savoir s'il y a un délai pour être remboursé. Quant à Christine, elle a une question sur le calcul de sa prime de départ à la retraite. J'ai sorti ma calculette.
Eh bien, en tout cas, nous, on n'a pas changé la tradition en ce début d'année. On vous retrouvera en fin d'émission pour avoir toutes les réponses. Là encore, on n'a pas changé de tradition, le débat éco. Bonjour Sophie Fay.
Bonjour Emmanuel.
Toujours journaliste au Monde en ce début d'année.
Toujours, parfait. Bonne année à tous.
Bonne année. Marc Vigneault, vous êtes journaliste à l'Opinion. Bonne année également Marc.
Bonjour Emmanuel, bonne année à tous.
Alors bon, malheureusement, j'ai presque envie de dire, comme un air de déjà-vu, il paraît que l'on a encore un budget à trouver en ce début d'année. Mais au fond, on va se poser cette question. Est-ce si grave de ne pas avoir de budget? Et surtout, la situation économique de la France est-elle vraiment aussi inquiétante qu'on le dit? C'est notre débat du jour.
L'année politique et budgétaire 2025 se termine un peu comme la précédente. Le Parlement, fracturé, sans majorité, n'est pas parvenu à un compromis sur la loi de finances.
La loi spéciale, c'est très simple, c'est la roue de secours qui vous permet de faire les quelques kilomètres qui vous amènent à la station pour changer les roues et avoir un budget pour l'année prochaine.
Roland Lescure, ministre de l'économie.
On va lever l'impôt, on va financer les collectivités locales et on va pouvoir lever de la dette. En France, il n'y a pas ce qu'on appelle de shutdown. Nous, on va évidemment continuer à payer les fonctionnaires, continuer les services essentiels, les écoles vont ouvrir à la rentrée, zéro investissement nouveau.
Oui, nous pouvons faire en sorte que ce pays et que notre nation aille beaucoup mieux.
Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise.
Il y a eu 2 ans de présidence Macron dans laquelle, je veux dire, on a un pays qui s'est abîmé quelque part. Qui s'est abîmé, les indicateurs économiques sont dans le rouge, les plans de licenciement
sur l'économie, justement.
Aujourd'hui, notre croissance tient. Elle est même supérieure à la moyenne européenne.
Sébastien Lecornu, Premier ministre.
Le taux d'emploi le plus haut de ces 40 dernières années. Quant à l'inflation, elle a été ramenée à moins de 1%, ce qui est bon pour le pouvoir d'achat. Mais le gouvernement a conscience que l'absence durable de budget et le manque de visibilité sont un danger pour l'investissement, pour l'emploi et pour la croissance.
La dette atteint des niveaux records et comme cette dette est détenue pour moitié par des non-résidents, des dizaines de milliards d'euros quittent notre pays, dégradant notre balance des paiements.
Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale.
Les défaillances d'entreprises atteignent aussi des records. Le déficit public reste hors de contrôle. Bref, après 8 ans de macronisme, la crise budgétaire est une bien triste réalité.
Alors, l'absence de budget, catastrophe ou bruit politique ? Marc, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, ce premier débat de l'année. Les discussions sur le budget vont reprendre d'ici quelques jours, ce sera aux alentours du jeudi 8 janvier. D'ici là, c'est la loi spéciale qui s'applique, on reconduit, on gère, on attend. Est-ce que l'on est dans une vraie zone de risque ou est-ce que finalement, rien ne change et puis tout tourne ?
Eh ben, j'ai envie de dire un peu des deux. Ça dépend combien de temps on reste dans ce régime de loi spéciale qui pose un problème parce qu'il n'y a aucun choix politique. Par exemple, pour la défense, c'est extrêmement mauvais. Si on ne peut pas faire de nouveaux investissements, on ne peut payer que les investissements qui avaient été décidés l'année dernière. Et donc, on sait que dans le nouveau monde géopolitique actuel, ne pas pouvoir augmenter le budget des armées, par exemple, ça pose un vrai problème. On fait, en fait, de la gestion à la petite semaine. Comme l'a dit le ministre de l'économie dans l'introduction, il n'y a pas de shutdown à la française. Mais on ne fait aucun choix pour le pays, donc ça c'est quand même un problème. L'avantage c'est qu'on a quand même fait voter un budget de la sécurité sociale, et donc ça veut dire que le fait qu'il y ait une loi spéciale pour la partie budget de l'État et les collectivités, c'est un peu moins grave que s'il y avait une loi spéciale pour l'ensemble des finances de la nation. Donc là, la question c'est en combien de temps les politiques vont être capables ou pas de négocier un vrai budget pour cette année.
Alors je ne vais pas vous demander comment vous avez passé votre réveillon, mais est-ce que ça quand même cette des fêtes un peu calmer tout le monde ou ça a juste repoussé l'affrontement ?
A priori, c'est quand même assez difficile à dire, mais a priori, tous les partis qui sont susceptibles de signer quelque chose, en tout cas de ne pas s'opposer frontalement à un budget, de ne pas voter une motion de censure, sont plutôt dans une logique de trouver un compromis. La question, c'est comment trouver ce compromis ? En gros, pour vous la faire simple, la droite dit, pour vous la faire simple, déjà, il y a un calcul, c'est qu'il faut repasser sous 5% de déficit pour que la France soit à peu près dans sa trajectoire qui permette de stabiliser la dette vers 2029-2030.
Clairement, on n'y est pas du tout
donc,
pour le moment.
On n'y est pas, on est à 5,3%, donc il faut trouver, pour passer de 5,3 à 5, il faut trouver 9 milliards. La droite, pour faire simple, veut couper dans les dépenses un peu plus. La gauche dit, non, nous on ne veut pas couper dans les dépenses, on veut au contraire des rallonges sur certains budgets, et donc pour trouver l'argent et pour passer à 5% de déficit, il faut augmenter certains impôts, notamment l'impôt sur les très grandes entreprises, la surtaxe exceptionnelle d'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises.
Donc,
qui l'année dernière, en 2025, rapportait 8 milliards et qu'on pourrait reconduire. La question, c'est à quel montant et est-ce que les grandes entreprises...
Parce que jusque-là, on s'était arrêté à 6 milliards dans la première mouture.
Voilà, donc ça pourrait être un mélange de 6 milliards de surtaxe d'impôt sur les sociétés et d'un coup de rabot généralisé sur les dépenses, excluant certaines dépenses que le Parti Socialiste veut vraiment voir un peu plus progresser, comme l'éducation nationale.
Sophie, de l'extérieur, on a presque l'impression finalement que le pays s'accommode de la situation. Moi, si je prends mon cas personnel, on n'en a pas du tout parlé, par exemple, pendant les fêtes. On dit pas de budget, mais est-ce que la vie, finalement, elle continue pas si mal que ça ? Et allez, On résiste. C'est pas folichon, hein, mais on résiste.
Bah, elle continue d'abord parce qu'on voit quand même qu'il y a des avancées. On a un parti socialiste qui travaille avec le gouvernement. On a réussi à trouver une majorité courte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc on se dit qu'on y arrivera aussi sur le budget. On parlait de 22 milliards. Maintenant, on est à 9 milliards. Bon, bah, ça sera peut-être un petit peu moins parce qu'on s'arrêtera peut-être pas à 5% de déficit. On ira peut-être un peu au-delà. Vous savez, tout ça, c'est pas grand-chose finalement. On en est à 60 milliards d'euros d'intérêts à payer tous les ans sur la dette. Alors 9 milliards d'économies, ben on réussira. On se dit maintenant qu'on arrivera à les trouver.
Ah, c'est pas grand-chose, mais à chaque fois qu'on recule quand même le fait de devoir trouver ces sous pour réduire le déficit, c'est quand même autant qu'il va falloir trouver demain.
Bien sûr, mais personne n'a l'air très inquiet sur le fait qu'on n'y arrive pas. Et quand vous regardez les notes des économistes, hein, notamment, par exemple, je regardais une note de l'économiste de l'assureur Allianz, bah, ils disent, oh, bon, ça va se stabiliser à 5,1% de déficit, et puis c'est pas si grave. Et pendant ce temps-là, les entreprises, elles se sont accommodées de cette incertitude, elles ont compris qu'il y aurait peut-être un peu de surtaxe d'impôt sur les sociétés, mais finalement pas de grands coups de hausse d'impôt, qu'on n'était pas dans une période où on prenait des décisions majeures et radicales, et donc finalement elle continue plutôt pas mal.
Et Alliance et Ludovic Subran, qu'on a la chance de retrouver très régulièrement dans ce débat éco, dans On n'arrête pas l'éco. Du coup, si je vous entends, si je résume, on surestime l'urgence.
Alors non, pas du tout. L'urgence, elle va... en fait, on a assez confiance dans la capacité de ce Parlement à trouver une sortie avant les municipales. Il y a quand même des élections dans quelques mois, tout le monde a envie de passer à autre chose, y compris les parlementaires. Donc, et puis surtout, on a une croissance qui tient pas mal. En fait, pour préparer cette émission, j'ai un peu fait le tour des économistes et j'ai lu un peu toutes les notes qu'ils ont publiées. Ce qui m'a surprise, c'est leur optimisme, finalement. La croissance mondiale va pas être si mauvaise. Quand on regarde les États-Unis, ça tient. Et l'Europe aura encore de la croissance, malgré ce qui va être mieux que ce qu'on a eu l'an dernier.
C'est
où
sûr
on
qu'on
avait
peut
une Allemagne à
une
l'arrêt.
Une croissance qui est finalement pas si mauvaise, alors vraiment c'est quand même pas folichon. Un emploi qui, même si on sait que ça va progresser, reste à des niveaux à peu près acceptables. L'inflation qui est, elle, très contenue. Et une conso, on va le voir tout à l'heure hein, avec la patronne de Nicolas. On va lui demander si par exemple les ventes de vin ont bien fonctionné à la fin de l'année, mais une conso qui semble résister.
Écoutez, quand on regarde, on a quand même des bonnes nouvelles. Regardez, hier soir, on a appris que RTE, le réseau qui distribue l'électricité en France, nous ont annoncé qu'on avait eu une excellente année, qu'on avait battu un record, enfin qu'on avait
on
n'a
jamais
un très
autant
haut
exporté de notre vie d'électricité.
Voilà, il nous manque plus qu'une chose, c'est d'électrifier un peu plus l'économie, donc de vendre un peu plus de voitures électriques, un peu plus de chauffage électrique.
Ça, quand... les chiffres de 25 sont cata, en revanche. Hein.
Non, sur les voitures électriques, on atteint
20%. On voit un petit bond, mais on est très loin de ce qu'on pense.
Et on attend encore une augmentation l'année prochaine. Si on regarde l'inflation, bah c'est une bonne nouvelle. L'inflation en France, elle est beaucoup moins forte que dans le reste de la zone euro. Et donc ça donne des avantages, un avantage compétitif aux entreprises françaises, qui n'est pas du tout négligeable. Quand vous regardez le taux d'épargne, bah on a 400 milliards de réserves en 5 ans, et tout est chez les plus de 55 ans. Ils peuvent dépenser un peu davantage. Quand on regarde la croissance en Europe du Sud, l'Espagne et l'Italie, ça va bien. Pourquoi on ferait moins bien? Et quand on regarde en
Allemagne...
Parce
qu'ils ont fait les réformes.
Ils étaient à zéro l'an dernier, et s'ils investissent leurs fonds pour la défense et l'infrastructure, comme ils l'ont dit, on va avoir un redémarrage de la croissance. On a des fusions et acquisitions qui explosent, et ça, c'est vraiment un signe que les entreprises ont confiance, sinon elles n'achètent pas.
C'est aussi un signe parfois de la crise. C'est-à-dire, dans la crise, on fusionne parce qu'il y en a qui vont pas bien. Mais
en crise, on n'achète pas.
Vous le voyez, Marc Vigneault, il a un petit sourire quand même depuis le début. J'ai l'impression qu'il se dit, elle est trop positive, Sophie.
Oui, Sophie, je vous trouve très, 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 très optimiste. Alors certes, on a évité la récession, on a réussi à vaincre l'inflation et on a une croissance qui, bon an, mal an, atteint 1% par an. Mais ça, c'est un régime qui est très faible et qui est très mauvais à terme pour le moral des Français. On voit bien que les Français sont déprimés. Leur pouvoir d'achat, si vous regardez les dernières années, moi je suis allé voir les chiffres de l'INSEE, le pouvoir d'achat des salaires depuis quelques années, c'est plus 0,3%. Alors certes, le pouvoir d'achat, il est aussi alimenté par les baisses d'impôts qu'il y a pu avoir, par les prestations sociales, etc. Mais on a quand même... les Français se rendent bien compte que même lorsqu'ils travaillent dur, leur pouvoir d'achat ne progresse plus beaucoup. On est dans un régime où il y a quand même beaucoup d'incertitudes, donc les gens attendent, il y a quand même des taux d'épargne records. Ça fait quand même 4 ans qu'on est sorti de la crise, même plus, qu'on est sorti de la crise Covid, et on a toujours un taux d'épargne qui a un niveau record. Vous dites, bah, peut-être que les retraités vont se mettre à dépenser, mais en général, quand on est à la retraite, bah, on a déjà un bon matelas, on a beau partir en vacances,
si on a une bonne retraite, etc. Je pense qu'il faut toujours les rappeler. On est à 6 000 milliards, on est quasiment à 20% d'épargne, c'est historique.
Oui, 18,5%, donc, et ça fait plusieurs années que chaque année, les économistes nous disent, ah, mais si cette année, les Français remettent l'épargne dans l'économie qu'ils ont accumulée depuis la crise Covid, alors on va avoir une croissance formidable. Mais force est de constater que, étant donné le contexte, ils ne le font pas. Et par ailleurs, quand on se dit l'Europe formidable va avoir 1,5% de croissance, quand on voit le niveau de croissance comparé aux États-Unis ou dans d'autres zones, on se dit que l'Europe a quand même d'énormes défis structurels à relever. Il y a quand même les importations massives de la Chine qui arrivent, où on se demande si notre modèle ne doit pas être de se protéger massivement contre les importations chinoises qui risquent de déclencher des représailles commerciales. Enfin, on est quand même... Moi, je suis frappé par l'idée qu'on se satisferait finalement d'avoir 1% de croissance l'année prochaine. Marc... En plus, on a bénéficié de la baisse des prix du pétrole. Quand même, les prix à la pompe ont quand même été très, très bas en fin d'année.
Ça, ce qui a
quand
même, peu, même si
allégé
les prix
un petit peu les contraintes pour les gens. Mais on n'est pas dans un contexte de solution. Il va falloir qu'à un moment, si on veut que ça se passe bien en France, il y ait de véritables réformes, il y ait un cap pour le pays qui soit dessiné. Et force est de constater que d'ici 2027, a priori, il n'y aura pas ce cap.
Mais Marc, vous avez dit, ouais, Sophie.
Mais Marc, la croissance aux États-Unis l'an prochain, elle va être de 2%, donc ça ne va pas être un écart énorme avec l'Europe. Et ensuite, on ne peut pas espérer une croissance énorme dans une société européenne qui vieillit très vite. Le frein à la croissance, c'est quand même la démocratie. Au-delà de la démographie, pardon.
Parfois, c'est un frein à la démocratie, mais
la démographie, excusez-moi. Plutôt que les réformes, là. Et puis, ce qu'on attend, c'est que les entreprises investissent énormément. Et c'est surtout ça, il faut qu'on regarde, il y a une étude de l'économiste Antonin Bergeot qui montre que les investissements dans l'intelligence artificielle vont finir par produire des gains de productivité.
À long terme.
À long terme, dans 10 ans. Mais on est dans cette phase d'investissement.
Tout en sachant qu'en Europe, on est un nain de l'intelligence artificielle si on se compare à la Chine et aux États-Unis.
On est un nain, mais nos industriels, nos entreprises, notre administration peut s'appuyer sur ces nouveaux produits, ces nouveaux services pour améliorer leur efficacité.
Et ça, pas une bonne nouvelle. Ils vont quand même déverser enfin des milliards d'euros. Alors, c'est notre premier partenaire commercial.
Le problème de l'Allemagne, c'est qu'on attend toujours de voir quand ils font. Ils l'annoncent et on attend toujours de le voir. Mais ça va arriver. Normalement, on prévoit 1,2% de croissance en Allemagne alors que c'était à zéro. Et moi, je trouve pas que les... Enfin, quand on discute avec les chefs d'entreprise, ils ne sont pas si négatifs. Vous avez des grands projets, ces constructions d'EPR, on parlait d'électricité tout à l'heure, ça donne quand même des marchés importants à tout le monde. Effectivement, il y a la menace chinoise, mais la menace chinoise, ce ne sont pas forcément des réformes structurelles qui vont l'empêcher d'arriver, c'est l'investissement des entreprises, c'est la recherche, c'est leur travail pour gagner des marchés.
C'est l'orientation stratégique de l'Europe, c'est l'orientation
stratégique de l'Europe. Et souvent, ces patrons sont mondiaux. Et si on revient sur la France, et on va conclure avec vous, Marc, sur la question des déficits. À un moment, cette trajectoire, elle paraît quand même inarrêtable. Est-ce qu'on peut continuer quand même longtemps comme ça? C'est vrai qu'on s'est fait peur beaucoup ces derniers mois avec nos fameux taux d'intérêt qui, même s'ils sont très élevés, hein, on est au niveau des pires pays de l'Europe. Bon, ça tient quand même.
Oui, mais je crois qu'on peut se rassurer justement en se disant ça tient, et je pense que ce discours est un petit peu problématique parce que, en fait, tant que vous tendez l'élastique et qu'il ne craque pas, ça tient. Le problème, c'est que sur les marchés, souvent, ça vient d'un coup. Quand il y a un élément qui fait que l'esprit animaux des investisseurs change. Et le problème, c'est qu'à ce niveau de déficit, la dette publique française augmente extrêmement vite. Et on voit bien que pour l'instant, il n'y a aucun consensus pour la réduire. Est-ce que vous voyez un seul candidat à la présidentielle qui peut arriver avec un discours en disant « Maintenant, on ne peut plus vous promettre de baisse d'impôts, on ne peut plus vous promettre d'augmenter les dépenses ». Il faudra voir s'il promet zéro baisse d'impôts et face à la concurrence, qu'est-ce qu'il peut... Voilà. Mais si vous restez à ce niveau plus ou moins 5%, que vous réduisez le déficit de 0,2, 0,3 points par an et que la dette finit à 125-130% dans quelques années, je ne suis pas sûr que ça va éternellement bien se passer. On sera étranglé comme l'Italie par les taux d'intérêt.
L'avantage du débat budgétaire, c'est qu'il a permis de clarifier les positions et de montrer qu'il n'y avait pas de solution miracle. miracle aux extrémités que le Rassemblement national, par exemple, n'avait pas de baguette magique. Et donc, au moins, on sait que les efforts sont devant nous. Il va falloir se mettre d'accord sur lesquels et avoir des programmes clairs là-dessus à la présidentielle.
Moi, je peux vous faire une résolution pour 2026. On est sûr d'en reparler. Non, on n'arrête pas les coups. En tout cas, merci Sophie Fay, journaliste au service économie du Monde. Un grand merci à Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Vous avez fait le premier débat éco de l'année dans On n'arrête pas l'écho.
La déindustrialisation est
une
Maintenant qu'on y a cette économie.
Allez, c'est l'heure de l'actu éco en VO. Chaque semaine, un correspondant nous décrypte un fait économique qui raconte l'histoire économique de son pays.
Ако дам 100 лева и ми върнат примерно евро и мога да има разминавка и затова предпочетах да платя с карта.
Alors, vous avez tout compris? On vient d'entendre quoi? Bah tiens, des clients bulgares qui découvrent leurs euros. La Bulgarie a en effet tourné une page. Hein, c'était ce 1er janvier. Depuis jeudi, on ne paye plus en lev, qui était la monnaie locale, mais en euros. C'est le 21e pays à rejoindre la monnaie unique, une étape symbolique pour un pays entré dans l'Union européenne en 2007 et qui reste l'un des plus pauvres de l'Union européenne. On va retrouver tout de suite sur place Damien Vonnegetarov, notre correspondant à Sofia. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
Alors, sur place, qu'est-ce que ça change concrètement? On parle d'un passage à l'euro qui doit rapprocher la Bulgarie du cœur économique de l'Europe. Mais tout ça, bah voilà, ça suscite une fois de plus pas mal d'inquiétudes, notamment sur les prix.
Oui, cette inquiétude existe toujours lorsqu'un pays adopte l'euro. Ce qui change, c'est surtout les paiements en liquide. Les levas restés en circulation jusqu'à la fin janvier seront remplacés par des euros. Donc, les commerçants ne peuvent rendre la monnaie qu'en euros. La conversion n'est pas difficile puisque le lev était lié à l'euro depuis la création de la monnaie unique européenne. Le taux de change est donc de presque 2 levas pour 1 euro. Cette politique monétaire est issue en fait de la crise de 1997 lorsque l'hyperinflation a complètement ruiné l'économie du pays. Une caisse d'émission est alors mise en place pour stabiliser les prix et le lev, le liant d'abord au Deutsche Mark puis à l'euro. Pour le passage à l'euro, la loi exige une conversion au centime près, ce qui donne des prix un peu casse-tête, comme 1,78 pour un kilo de banane ou 16,86 le paquet de café.
Alors on voit bien la flambée des prix, est-ce que c'est une inquiétude fondée? Et surtout, comment les autorités essaient d'éviter l'effet arrondi? Nous on l'a très 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 bien connu en France à l'époque, pour essayer de faire en sorte que tout ça reste normal.
Alors le gouvernement a mis en place un système de contrôle. Il suit l'exemple de la Croatie en 2023. Le fisc bulgare contrôle les commerces en comparant l'évolution des prix. Toute augmentation qui ne peut être justifiée par le prix de l'électricité, du pétrole ou du transport par exemple, est sanctionnée. Sur le papier, ça devrait rassurer, mais en réalité, les commerçants se préparent aussi. Une employée d'une entreprise de commerce m'a avoué que son employeur avait augmenté ses marges de 120 à 150% dès novembre. Le contribuable est de toute façon confronté à une forte inflation depuis la crise du Covid. Elle est de 5% sur un an et de 41% sur 5 ans. Dans certains secteurs, comme l'immobilier, les prix grimpent même de 20% par an depuis plusieurs années déjà.
Un grand merci à Damien Vodenira-Tcharov, le correspondant de France Inter en Bulgarie. Et il est 9h35 et dans moins de 10 minutes, l'invité du Mageco sera Cathy Collard-Gégère, directrice générale de Maison Nicolas. Effritement de la demande de vin, nouvelles habitudes de consommation, on a de quoi parler. Et bien tiens, justement là-dessus, le climat est en train de changer les règles du jeu pour la vigne française. Pendant que certaines régions encaissent sécheresse, gel tardif, maladie, d'autres, comme le Royaume-Uni, voient la vigne progresser à toute vitesse. Comment nos vignerons s'adaptent pour continuer à produire en France? Notre reporter, Sofia Berada, s'est rendue près de Cognac, dans un vignoble bien connu, hein, de la Maison Martel, où l'on travaille la vigne, même en plein hiver, et surtout, où on se prépare à la nouvelle donne climatique.
Ce que vous faites en ce moment, c'est de vous tailler?
Absolument. On vient tailler les pieds de vigne pour laisser uniquement les bois, les sarments, afin de porter la prochaine récolte qui arrivera en septembre prochain. Je m'appelle Julien Chaduteau, je suis le responsable des vignobles.
Là par exemple, l'été 2025, il y a eu un épisode caniculaire.
deux épisodes de canicule. Le dernier épisode au mois d'août, on a relevé des températures sous abri de 42 degrés, quasiment 43 degrés. Donc c'est assez considérable. On a constaté donc une date de vendange encore avancée. Hein. On a vendangé début septembre dans la région, quand on pense que nos parents et grands-parents vendangeaient plutôt mi-octobre. Et selon les scénarios du GIEC retenus, d'ici 15 ans, on pourrait avoir les températures de Toulouse. Et puis d'ici une trentaine d'années, les températures qu'on a à Montpellier. Quoi.
Et ça dans les Charentes.
On sait qu'on a plusieurs leviers d'adaptation. Typiquement, on a réfléchi autour du paysage. Ici, on est sur le domaine de Gallienne, à côté de Cognac. On va tester l'effet d'un écosystème arboré sur la vigne. Donc on a à peu près ici, sur 8 hectares, 9000 pieds de vigne. Et on a implanté autour et à l'intérieur de la parcelle 2500 arbres. Donc c'est assez considérable. En fait, les arbres en place ont un rôle. On pourrait appeler ça quasiment un rôle bioclimatique. On sait que l'arbre peut réaliser de l'ombrage dans la parcelle. On peut en avoir besoin avec les forts rayons lumineux qu'on connaît. Et on peut aussi, dans une certaine mesure, amener de l'humidité à la parcelle. Avec des experts en la matière, on a pu implanter des espèces qui soient adaptées à notre région, mais qui soient aussi adaptées au climat futur, donc avec moins d'eau, par exemple, avec des températures assez importantes, mais également avec des floraisons étalées sur l'année. Là, ici, on a de la févrole devant nous. Cette févrole, c'est une plante qu'on appelle une légumineuse. Elle va fixer l'azote de l'air, elle va la restituer au sol. Et avec cette porosité, on va pouvoir retenir de l'eau.
Tout ça, pour l'instant, c'est un laboratoire. L'idée, après, c'est de l'étendre aux 450 hectares du domaine ?
Oui, on en tient déjà compte dans nos nouveaux aménagements de parcelles, dans nos nouvelles plantations de vignes. Et le but, au-delà de nos domaines, c'est aussi de pouvoir les transmettre aux partenaires et aux viticulteurs de la région. Et à toute la filière.
Vous avez un autre programme ?
Le programme de création variétale a été initié en 2016. Le but, donc d'ici 2030, est de créer un ou plusieurs variétés qui soient à la fois adaptées au changement climatique dans le futur et en même temps qui soient résistantes aux maladies.
Une fois ce cépage idéal trouvé, les producteurs de cognac devront attendre une autorisation officielle du BNIC, le Bureau international du cognac, avant de l'utiliser. C'est lui qui accorde aux vignerons le label AOC Cognac. L'appellation d'origine contrôlée et son homologue européen, l'appellation d'origine protégée, sont très prisées des consommateurs. En France, il en existe près de 400, mais le système est mis à l'épreuve par le dérèglement climatique. Je me rends à Angers, dans une cave à vin voisine du château, spécialisée dans les vins de Loire, où Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'INRAE, a ses habitudes.
Bonjour. Je cherche Monsieur Touzard.
Oui, il est juste là.
Qu'est-ce que c'est ce vin que vous êtes en train de regarder ?
C'est un Saumur Champigny. C'est une appellation qui a souvent été très dynamique en avant, y compris sur les questions environnementales. Alors, je m'appelle Jean-Marc Touzard, je suis directeur de recherche à l'INRAE et je travaille depuis une trentaine d'années maintenant sur les crises, les transitions de l'agriculture, notamment de la viticulture en France, pour vraiment garantir le respect du droit commercial. Le système des appellations, d'origine contrôlée d'abord, puis maintenant protégée dans le cadre européen, a été mis en place. Ce qui est important, c'est le respect du cahier des charges. Surtout, c'est de savoir que c'est bien tel cépage, telle densité, telle pratique, telle localisation. Le changement climatique, il vient tout bouleverser. Surtout, la qualité des vins change, parce que avec le changement climatique, on a des modifications des caractéristiques des raisins, hein, avec plus de sucre, ça veut dire plus d'alcool ensuite dans le vin, des baisses d'acidité souvent, donc moins de fraîcheur, et des changements dans les profils aromatiques.
Pour s'adapter à ce dérèglement climatique, les viticulteurs réfléchissent à des solutions. On va bouger notre vignoble, on va modifier le cépage, Sauf que si on fait ça, on ne rentre plus dans le cahier des charges.
Exactement. Et ça, la révision d'un cahier des charges, c'est prévu, mais c'est un processus très lent. Et donc, on a un risque de que ce modèle économique se dépérisse, quoi. Il faut qu'elles innovent sans remettre en cause les fondements de l'appellation, sans remettre en cause ce lien au territoire. Il faut expliquer aux consommateurs pourquoi on innove, pourquoi on a changé de cépage, pourquoi il y a comme une évolution du goût, mais en même temps, on vous garantit que ce vin, même si son goût a évolué, c'est un vin qui reste porteur de toutes les dimensions patrimoniales d'un territoire, d'un terroir.
Un défi à relever qui s'apparente à une course contre la montre pour les vignerons, tant la fréquence des épisodes climatiques extrêmes augmente.
Je téléphone à Jean-Marie Cardebas. Il est professeur d'économie à l'université de Bordeaux et affilié à l'INSEC Grande École. Selon lui, cela commence à mettre en péril la santé économique du secteur.
Depuis 2020, on a des aléas climatiques divers et variés qui empêchent d'avoir une rentabilité correcte. Et effectivement, on arrive au point de rupture aujourd'hui sur l'année 2025 et sans doute sur l'année 2026 aussi, où on a vu et où l'on verra des vignobles qui mettent la clé sous la porte, effectivement, parce que tout simplement, on ne peut pas vendre à perte ad vitam aeternam comme toute entreprise. On parle a priori de quelques centaines d'exploitations viticoles qui sont aujourd'hui dans le rouge, en point de rupture et qui sont dans des situations de cessation de paiement, effectivement. Mmh. Donc là, on a cette crise conjoncturelle et à laquelle s'ajoute vraisemblablement une crise plus structurelle de consommation qui se porte vers d'autres boissons, vers le non-alcoolisé notamment. Et puis, on sait bien que le vin rouge, typiquement, est une boisson de repas et que tout ça peut-être appartient à une période un petit peu passée, diront les plus pessimistes. Alors, au début des années 2010, de consommation récente ont été à plus de 250 millions d'hectolitres de vin consommé dans le monde. Et là, on va arriver, on est en 2024 à même pas 215 millions d'hectolitres. C'est un choc. Imaginez si le PIB français se contractait de 20% en 7 ans. Enfin, ce serait une crise extrêmement profonde. Des motifs d'espoir, il y en a parce que on est dans un creux de cycle, comme on en a connu d'autres. On en a connu il y a une trentaine d'années, un autre creux de cycle où la consommation est tombée très bas. Et elle a rebondi avec des nouveaux consommateurs, avec des vins différents. Et elle a rebondi notamment à l'étranger.
La géographie viticole se redessine déjà. Nathalie Ola est ingénieure agronome. Elle a réalisé une cartographie des régions où le vin se découvre un avenir. Certaines d'entre elles pourraient être les gagnantes de la crise provoquée par le dérèglement climatique.
Des régions comme la Bretagne, mais les Hauts-de-France, la Normandie ont commencé à voir se développer des vignobles. Le sud de l'Angleterre, le vignoble du sud de l'Angleterre ne cesse de grandir. Puis on parle de vignobles en Belgique dans l'est de l'Europe également. Il y a quelques hectares en Pologne. Donc voilà, ce sont des régions qui pourraient avoir un potentiel viticole qui s'accroît, avec cependant quelques limites, hein, parce que les problèmes de gel, notamment au printemps, restent importants. On pense que ce sera plutôt la culture de cépages tardifs, hein, qui pourront permettre d'élaborer des vins intéressants.
Et pour autant, tous les cépages qui sont cultivés aujourd'hui ne sont pas forcément achetés à la poubelle. Certains peuvent encore nous surprendre.
On s'aperçoit au fil des années que certains cépages qu'on croyait ne pas pouvoir passer le cap, eh bien, se comporte pas si mal. Bien sûr, ça reste à prouver quels sont les mécanismes, par exemple, qui sont derrière cette capacité de résilience, mais il semble qu'on n'ait pas encore tout découvert sur la capacité d'adaptation des cépages au changement climatique.
Le vignoble français face au défi du changement climatique, c'était le reportage de Sophia Berada.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Emmanuel Duteil.
Bonjour Cathy Collard-Gégère.
Bonjour.
Merci d'être notre invitée ce matin. Vous êtes la directrice générale de Maison Nicolas depuis avril. Maison Nicolas, c'est le nouveau nom de l'enseigne Nicolas qui était née en 1822. Aujourd'hui, c'est environ 475 boutiques en France et un petit peu dans le monde. Et vous étiez auparavant à la tête de Picard. Première question toute simple. On sort des fêtes. C'était un bon cru 2025 ?
Mais écoutez, le mois de décembre a l'air de s'annoncer étal par rapport à l'année passée, ce qui serait plutôt une belle victoire, sachant la déconsommation, et puis les Français annonçaient qu'ils allaient dépenser moins de budget pour ces fêtes. Donc on se réjouit effectivement d'avoir fait un mois identique.
Donc un cru à peu près correct. Oui. On vient par ailleurs là de débuter, pour ceux qui le font, le Dry January. Vous faites entrer de plus en plus, justement, de vins sans alcool dans vos boutiques. Vous venez même là d'annoncer il y a quelques heures que vous lancez votre propre gamme de vins sans alcool. Très concrètement, ça va prendre quelle forme ?
Bien, ça prend toutes les formes, puisque c'est toutes les couleurs et même un effervescent que nous lançons effectivement sous la marque Nicolas, parce que c'est un vin désalcoolisé de très grande qualité que nous avons là. Dernière technologie pour le désalcooliser, ce vin. Donc, beaucoup moins de sucre. Et puis, c'est l'arôme naturel qui est réinjecté dans le vin. Donc, une recette dont on est très, très fier.
Et vous le produisez vous-même, je crois, dans une de vos usines, c'est ça le cas, du côté de Nicolas ?
Absolument. C'est une usine une nouvelle génération donc, qui fait partie du groupe Castel, dont on fait une nouvelle partie.
Auquel vous appartenez.
Absolument, et donc va produire effectivement ces vins-là.
Alors aujourd'hui, c'est epsilonesque, hein, les ventes de vins sans alcool. Vous y croyez vraiment? Pour vous, on est au-delà de l'effet de mode. C'est une vraie lame de fond pour les années à venir?
Pour moi, c'est une vraie lame de fond parce que 2024, c'est quand même 32% des Français qui ont consommé du sans alcool et c'est 4 points de plus que l'année précédente. C'est 45% de volume supplémentaire, nous aussi, d'une année sur l'autre. Et puis surtout, c'est qu'en fait, on voit que ce sans alcool, c'est aussi les gens qui consomment de l'alcool qui, en fait, choisissent des instants de consommation où ils ont besoin
c'est
de réduire l'alcool.
C'est plutôt des gens qui consomment de l'alcool que de nouveaux consommateurs?
Absolument. Pour nous, c'est vraiment les gens qui consomment de l'alcool qui ont besoin parce qu'ils font plus de sport, parce qu'ils vont reprendre la voiture, parce qu'ils vont être hospitalisés, parce qu'ils font attention effectivement à leur diète, qui ont besoin effectivement de trouver des vins sans alcool et une vraie alternative.
Alors ça donne un petit coup de jeune à votre gamme. Vous avez changé de nom, je vais vous appeler jusqu'à la Nicolas. Vous êtes revenu au nom d'origine, Maison Nicolas 1822. Est-ce que c'est pas là quand même un petit coup marketing? Parce que qu'est-ce que ça change de mettre Maison devant?
En fait, non, c'est pas du tout un co-marketing. C'est au contraire, Maison, c'est le trait d'union avec ce que l'on a été. Parce qu'à l'heure où on redonne ses lettres de noblesse à notre marque, il est important de renouer finalement avec notre ADN et ce qu'on a toujours été. Et on a toujours été Maison Nicolas. Et en même temps, c'est ce qu'on veut être aujourd'hui. Vous voyez, on a des surfaces de 65 mètres carrés où vous avez un hôte, le caviste, qui vous accueille chaleureusement, qui va vous faire partager un petit verre.
Mais c'est très à la mode quand même de rajouter Maison. Il y a plusieurs marques qui font ça en ce moment. Donc c'est pour revenir aux sources?
C'est pour revenir aux sources parce que je suis convaincue qu'effectivement, les sources chez nous, c'est Louis-Nicolas qui invente effectivement en 1822 aussi le vin mis en bouteille, qui fait sa première livraison à domicile en 1840 et qui porte la qualité et l'innovation au cœur même de cette marque. Et c'est exactement ce qu'on veut retrouver aujourd'hui.
Je lisais une interview de vous où vous dites « j'ai pris une belle endormie ». Est-ce que vous avez laissé quelques cavistes indépendants ou pas mal de gens autour de vous se développer parce que vous avez dit bon, « dans tous les cas, on est les plus gros et ça suffira ».
Oui, c'est des fois effectivement la trajectoire d'un leader qui se dit « je suis devant » et donc pas d'inquiétude et qui s'est peut-être pas renouvelé ces dernières années alors que le monde change, le monde bouge et on l'a entendu dans votre reportage. Donc effectivement, on a besoin là aussi de réenchanter le marché et de porter l'innovation à bras-le-corps.
Alors vous voulez le réenchanter, on l'a dit, avec les vins sans alcool, mais également avec une offre peu plus adaptée à la demande. Je pense par exemple au champagne, où il suffit d'aller chez Nicolas, j'ai fait le test avant-hier, très peu de bouteilles à moins de 30 euros, encore aujourd'hui, là, chez Nicolas. Vous promettez de revenir avec des effervescents, donc pas obligatoirement du champagne, mais des créments, du prosecco, ce genre de choses, à consommer avec modération évidemment, à des tarifs plus adaptés. Est-ce que là aussi, vous avez oublié à un moment la bourse du consommateur?
Bien, un temps, on n'avait effectivement qu'une référence à moins de 30 euros. Or, 85% du marché du champagne est désormais à moins de 30 euros. Donc, c'est 6 nouvelles références que l'on a effectivement rentrées. Et je peux vous dire que notre champagne à 18,95 €, on parlait des fêtes tout à l'heure, a été effectivement très plébiscité par les clients. Et puis, c'est tout le crément aussi. Des gens quittent le champagne pour effectivement boire de très très bons créments. Le crément d'Alsace qui tient là aussi le haut du panier. Et donc, ce sont ce genre de produits. Effectivement, notre but étant d'accompagner les nouvelles tendance de consommation qui évolue.
Et les adapter en fonction aussi des régions dans lesquelles vous êtes, parce que jusque-là, chaque magasin Nicolas avait grosso modo la même offre, qu'on soit à Colmar, à Nantes ou à Grasse. Vous voulez donc développer des magasins, je crois, plus petits que même les 65 mètres carrés dont vous nous parliez, et où on a une offre différenciée en fonction de l'endroit où on est. C'est ça, j'ai bien compris la stratégie?
Oui. Moi, je crois très très fort au bassin de consommation. Et donc, effectivement, on va s'adapter à nos clients, consommateurs, localement. Donc, on est très ouvert à rentrer désormais une offre locale, une offre régionale, qui effectivement fera sens dans les magasins là où on est.
Et c'est ça qui va permettre d'atteindre les 5% de croissance des ventes que vous annoncez. Ça peut paraître fou, parce qu'on l'a entendu là encore dans l'excellent reportage de Sofia Berada, notre reporter. Les ventes s'effondrent au niveau mondial et au niveau français. Vous voulez continuer de croître, donc il faut gagner des parts de marché sur les concurrents, quand c'est ça?
Absolument, il faut gagner des parts de marché, il faut reséduire des nouveaux concurrents et on n'a pas exploité toutes les opportunités. L'opportunité du digital, l'opportunité des gammes locales, l'opportunité de la bière, qui est aussi un segment qui croît terriblement et on a encore été très timide sur le sujet. Donc il y a beaucoup d'opportunités, effectivement, qui sont à notre portée. On y croit fortement.
Alors, vous parlez du digital, je suis allé voir, vous avez quand même un site internet, mais j'ai été impressionné par les mauvais chiffres de vente. On ne peut pas le dire autrement. 2% des ventes réalisées en numérique du côté de Maison Nicolas, quand le marché du vin est plutôt aux alentours d'un gros 10%, 12%,
oui, 12%, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous allez changer?
Eh bien, notre site n'est pas au standard du marché. Vous voyez, il n'est même pas responsive, finalement, sur l'application mobile. Donc, on change de site, et c'est pour cet été. On lance une application mobile, et c'est pour cet été aussi. Et puis, un site qui sera effectivement plus adapté aux accords mets-vins, qui portera plus de services, qui pourra permettre de faire des ventes flash, d'aller vous faire découvrir, finalement, au-delà de la bouteille, toute l'exploitation qu'il y a derrière. Donc, en fait, un site qui s'inscrit dans notre quotidien.
Alors, justement, notre quotidien, je vais revenir à votre passé du côté de chez Picard. J'ai lu une interview de vous où vous disiez « J'ai mis des glacières Picard partout en France, je veux maintenant des caddies Nicolas partout en France ». C'est quoi un caddie Nicolas? On va retrouver ça où?
On va retrouver effectivement notamment dans les hypercentres, parce que figurez-vous que nos magasins d'hypercentre-ville perdent plus de volume finalement que les autres magasins. Et je me suis aperçue en les visitant que finalement on pouvait plus garer à proximité de nos magasins. Et vous voyez qu'on a des produits qui sont relativement lourds. Et au lieu d'acheter 6 bouteilles, ben désormais, on n'en achète plus que 2. C'est ce qu'on est capable de porter pour aller rejoindre sa voiture. Donc, des fois, il faut savoir adapter le contenant au contenu. Et je prends le pari, là aussi, avec mes équipes, que de lancer un caddie Nicolas. Donc, il va avoir 2 pochettes aux dimensions d'un carton
de vin. On devra l'acheter, du coup, au démarrage.
Donc, on va l'acheter, mais on va l'offrir aussi via notre programme de fidélité. On est aussi en train de réfléchir à comment on peut vous le prêter sous caution pour rejoindre aussi finalement votre voiture.
Mais et ça, ce sera d'ici permet... quand?
D'ici le mois de février.
Donc c'est quasiment voilà, demain pour absolument. Là aussi reconquérir les centres-villes. Est-ce que vous êtes aussi pénalisé par la désertification des centres-villes? Parce qu'on n'arrête pas dans le dire, notamment dans les villes moyennes, on a beau lancer des plans et des plans gouvernementaux, ça ne change rien, les centres-villes se vident. Vous en êtes victime aussi?
Sur certains points de vente, oui, parce qu'effectivement on est dans ce cas obligé de transférer nos magasins, et effectivement les centres-villes vivent. Donc vous avez des centres-villes qui retrouvent beaucoup de dynamique, voire des villes qui se redynamisent et sur lesquelles on n'est pas, et on a besoin effectivement d'ouvrir
un exemple,
Dunkerque. Voilà, j'aime...
Ville très dynamique grâce à la vallée de la batterie notamment en ce moment.
Exactement, 20 000 emplois créés, 12 000 logements qui sont bâtis, donc vous voyez tout un flux migratoire qui va arriver sur Dunkerque, des indices de consommation d'alcool élevés parce qu'on aime la convivialité, l'art de vivre à la française à Dunkerque, et pour autant nous n'avons pas de boutique. Donc on va ouvrir aussi des boutiques là où nous ne sommes pas.
Et donc dans ces boutiques, que ce soit Dunkerque ou ailleurs, est-ce qu'on trouvera également ces vins du nouveau monde ou des nouvelles régions? On entendait la cité dans le reportage, la Bretagne, le sud du Royaume-Uni. Est-ce que là aussi, c'est des choses que vous êtes en train de regarder, au-delà des vins du Nouveau Monde, quand on dit toujours l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili, ce genre de choses qu'on trouve déjà chez vous? Mais là, nos régions, ces nouvelles régions françaises, c'est important pour vous aussi?
Oui, oui, c'est la vocation d'un leader que d'aller regarder effectivement toutes ces tendances qui émergent. Alors, pour le moment, on est encore extrêmement sur l'Italie. Nous, vous voyez, les ventes, effectivement, de vins du monde sont très focalisées sur l'Italie. Et donc, on a élargi cette gamme-là. Mais bien sûr qu'on va regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde.
Alors, vous avez beaucoup travaillé dans la grande distribution, que ce soit chez Auchan, chez Intermarché, dans des métiers où il y a très peu de femmes à la direction. Vous êtes beaucoup formée quand on regarde un peu votre parcours ces dernières années, que ce soit le coaching. À un moment, vous avez travaillé en Chine et vous avez dit « je peux pas travailler en Chine si je parle pas chinois ». Vous avez appris, je crois, le chinois en un temps record. Pourquoi? Un petit sentiment d'imposture dans ce monde d'hommes? Il fallait être la meilleure, meilleure que les hommes?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai peut-être l'honnêteté ou la lucidité de me dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire et qu'est-ce qui manque pour effectivement aller gagner, faire gagner mon entreprise. Et donc, systématiquement, j'ai l'humilité de me dire, ben, je ne sais pas parler chinois et pourtant, ça me fera avancer plus vite, autant y aller. Quand je suis passée chez Intermarché, vous avez raison, c'était une autre posture. Voilà, vous avez affaire à des adhérents, vous n'êtes pas hiérarchique. Et cette posture, je ne l'avais pas travaillée. Donc, ma certification de coach m'a permis effectivement d'aller travailler cette posture. Et puis là, je me forme, effectivement, je vais dans les vignes, je vais fouler les vignes.
Au point de faire quasiment un stage d'œnologie et ce genre de choses.
Mais
vous allez aller jusque-là?
En tout cas, je fais quelques formations, absolument, parce que là aussi, j'ai l'humilité de me dire que je sais faire plein de choses dans la distribution, mais pour autant, je n'ai pas cette formation assez pointue en vin. Et donc, je continue de me former sur le sujet, et c'est ce qui rend ma vie passionnante aussi.
Je crois que vous êtes fille de militaire, je crois que vous aviez même rêvé de pilote de chasse. Vous êtes aujourd'hui engagée dans la réserve citoyenne, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous en retirez dans votre vie managériale? Parce que certains, que parfois, on peut vous dire que vous étiez un petit peu dur. Donc, qu'est-ce que vous en avez retiré dans votre vie de managériale?
En tout cas, je pense que les valeurs sont extrêmement importantes. Enfin, moi, j'aime beaucoup, vous savez, l'escadrille qui me parraine, c'est l'escadrille de Saint-Dizier, l'escadrille Lafayette. Ce sont des pilotes de chasse. Mais je peux vous dire, quand en 15 minutes, on doit avoir pris son avion et décollé, et qu'on fait confiance, finalement, à celui qui va préparer votre parachute, celui qui va vous mettre du carburant, celui qui va vérifier tout votre équipement, vous voyez, cette notion de confiance, quand vous jouez votre vie, ça a beaucoup de sens, effectivement, dans l'armée. Donc, managériellement, c'est toutes ces valeurs-là que je prône au quotidien, la confiance, l'audace, faire corps avec son équipe, qui sont extrêmement importantes pour moi pour réussir.
Alors, on le disait tout à l'heure, hein, vous avez été la patronne de Picard, vous en avez fait un très gros plan de transformation, c'est vous notamment qui avez rendu possible le fait qu'on puisse déjeuner sur place, on y a mis des micro-ondes, jusque-là, on n'y avait pas pensé. D'une certaine manière, qu'est-ce que vous avez appris de ce plan de transformation?
Ce qui est important quand vous partez, même quand vous l'avez décidé, c'est de vivre ce cycle de deuil. Et je pense que pour être la meilleure, et là toujours c'est une question d'humilité, pour réussir effectivement l'étape d'après, il est important aussi de se dire où j'ai été bonne, où j'ai été moins bonne, et qu'est-ce qui me manque pour réussir sur l'étape d'après. Et puis l'armée a été effectivement pendant cette période de transition ma Madeleine de Proust qui m'a permis aussi de me réaligner, on se le disait, sur des valeurs et puis sur ce qui me fait plaisir pour effectivement repartir sur un nouveau défi.
Eh bien, un grand merci Cathy Collin-Gégère d'avoir été notre invitée en ce début d'année, la première invitée dont on n'arrête pas l'écho en cette année 2026. Vous êtes la patronne de Maison Nicolas. Si vous voulez en savoir plus, vous, Cathy Collin-Gégère et tous nos auditeurs, sachez que demain Interception sur Inter va justement être consacrée au vin sans alcool et à ce mouvement, on l'a vu avec vous, qui se développe fortement. Merci
très
beaucoup.
Bien, merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Et on retrouve tout de suite Sandrine Foulon. Sandrine, vous commencez donc l'année par répondre à deux de nos auditeurs. Si vous le voulez bien, on va commencer par Thomas. Il vous a écrit depuis Albi. Il est prof dans un lycée professionnel du Tarn. Il a accompagné une élève à Marseille pour un concours. Il a dépensé 750 € en transport, en hôtel, en repas. Un mois plus tard, il n'est toujours pas remboursé. L'administration est-elle tenue de respecter un délai, vous demande-t-il ?
Les textes, Thomas, ne prévoient pas un nombre de jours précis. C'est pareil dans le privé, on parle plutôt de délai raisonnable. Ça reste très flou, ça n'arrange pas vos affaires. Mais si au bout d'un mois, vous ne voyez toujours rien venir, vous pouvez relancer par écrit votre lycée, puis éventuellement le médiateur académique. Et si c'est toujours silence radio, vous pouvez saisir le tribunal administratif et même obtenir des intérêts moratoires si tout ça prend trop de temps. 750 €, c'est pas rien. À partir du moment, Thomas, où vous possédez tous les justificatifs et qu'il s'agit d'un déplacement professionnel, l'employeur, privé ou public, est obligé de vous rembourser. La rigueur et les exigences ne sont pas toujours réciproques. Les entreprises et les administrations peuvent de leur côté imposer des délais pour transmettre ces notes de frais. En droit public, si vous dépassez cette date limite, vous ne perdez pas automatiquement vos droits. Ce qui compte vraiment, c'est la prescription de la créance qui est de 4 ans. Dans le privé, c'est un peu plus raide. Si vous tardez à réclamer votre dû, c'est perdu. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation en 2009.
Allez, on continue cette fois avec Christine qui vous a contacté pour sa part depuis Montaigu-Vendée. À l'issue de sa retraite progressive, son indemnité de départ sera-t-elle calculée en fonction de son dernier salaire à temps partiel ou de son temps plein ?
Ce n'est pas votre dernier salaire à temps partiel qui va servir de base. Si vous avez par exemple travaillé 8 ans dans l'entreprise à temps plein et les deux dernières années à mi-temps, le calcul de l'indemnité légale de départ en retraite se fera au prorata des heures travaillées, mais sur toute la période des 10 ans en agrégeant les années pleines et les années à temps partiel. Votre convention collective peut même prévoir des ratios plus avantageux pour définir cette prime de départ, mais la logique reste la même. Aucune année de présence ne passe à la trappe. La retraite progressive n'y change rien. C'est un peu pareil pour fixer le montant de votre retraite définitive. Encore une fois, ce n'est pas le tout dernier salaire à temps partiel qui va peser dans la balance, mais l'ensemble de votre carrière. La bonne nouvelle du budget de la Sécu, qui a été définitivement voté, c'est que désormais, ce ne sont plus les 25 meilleures années qui serviront pour le calcul, mais les 24 meilleures années, si vous êtes mère d'un enfant, et les 23 meilleures, si vous en avez deux ou plus. Vous n'avez plus, Christine, qu'à ressortir la calculette, tenter les simulateurs de retraite ou prendre rendez-vous avec un conseiller de votre caisse d'assurance. Il vous mettra tout ça au clair.
Merci Sandrine Foulon, cette chronique, on peut la retrouver en podcast sur la page dont n'arrête pas l'écho. Et à la semaine prochaine avec Alexandra Ben Saïd.